Vous avez peut-être déjà vu ces herbes folles ou ces structures en cagette depuis la ligne 1 du métro sur sa partie aérienne La Friche Saint-Sauveur. C'est ce grand espace situé en plein centre-ville de Lille, entre la gare Saint-Sauveur et le quartier Lille-Moulin. Là où mairie et aménageurs ont prévu de construire logements, bureaux, voire une piscine olympique, d'autres rêvent d'autres choses. Plus qu'un rêve même, puisque depuis de nombreux mois, ils occupent cette friche, ils construisent des lieux, des œuvres d'art et d'autres choses aussi. Pour nous parler de cette lutte urbaine, on a rencontré Camille, Lorraine, Marion et Modeste Richard du collectif Faites la Friche à l'occasion du vernissage de l'exposition Regards sur la Friche Saint-Sauveur. C'était le 4 novembre dernier au café culturel Le Polder à Hellem.
La gare de marchandises qui s'appelle la gare Saint-Sauveur, elle a cessé ses activités en 2003 et elle a laissé derrière elle un très très vaste site qui a été partiellement aménagé en 2009 par la ville qui a créé une espèce de lieu culturel qui s'appelle la gare Saint-Sauveur, usurpant pour une partie le nom de la totalité, bref. Et il reste 23 hectares plus 3, je m'expliquerai ensuite, à aménager ou à laisser en l'état, en fait c'est à voir, c'est à discuter. Il se trouve que la ville et la métropole ont un projet d'aménagement qui consiste en quoi ? En la construction de 2500 logements, 55 000 m² de bureaux, 35 000 m² de surface commerciale, et à ceci a été ajouté le projet de la construction d'une piscine olympique avec 5 bassins, dont l'un sera un bassin extérieur, et puis la plus profonde fosse de plongée d'Europe à 42 mètres de profondeur. Il y a 1000 raisons d'être opposé à ce projet d'aménagement. La première serait de faire valoir la pollution qui serait aggravée pour l'ensemble de la ville, et en particulier du quartier Moulin, qui est déjà le quartier le plus pollué de la ville du fait de la proximité, la bretelle d'autoroute, du périphérique, etc. En précisant tout simplement que 2500 logements en plus, c'est 8500 véhicules en plus par jour, sans compter tous les véhicules qui se déplaceraient pour rejoindre la piscine olympique ou les commerces, etc. Donc c'est la question de la pollution, mais aussi, plus profondément, la raison de s'opposer à ce projet d'aménagement, c'est cette espèce de sur-densification de la ville qui consiste à regarder n'importe quel espace où il n'y a pas déjà du bâti comme un espace à construire. Alors qu'aujourd'hui, le vrai geste architectural, c'est de libérer l'espace. Point à la ligne.
Alors donc il y a ce collectif qui s'est monté pour défendre ce lieu. Comment concrètement ça s'est mis en place en fait ?
En fait, le point de départ, ça n'a pas été tout de suite l'occupation du terrain physique. Ça a été tout simplement une lecture critique du projet d'aménagement, et ça a été proposé à une quinzaine d'associations par la MRES, c'est-à-dire la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités à Lille. Et pendant un an, les membres de ces associations se sont réunis pour étudier le projet qu'on appelait le projet GEL, du nom de l'architecte danois qui avait été lauréat au concours lancé par la ville et la MEL. Ça a été l'occasion de prendre conscience des limites de ce genre de projet. D'abord, comprendre que c'était un projet des années 2000 qui ne prenait plus du tout, qui ne prenait pas encore en considération toutes les exigences et les objectifs qu'on pouvait se donner suite à la COP21. Et la prise de conscience n'avait pas encore eu lieu apparemment pour ceux qui avaient lancé ce projet, quoi. Après quoi, comme à l'occasion de cette année d'études du projet, on avait eu l'occasion d'aller sur le terrain, on a découvert tout simplement ce site si vaste qui est en plein cœur de Lille, à propos duquel on s'est dit il faut peut-être quand même avoir un peu plus d'imagination que ça. Plutôt que de refaire ici ce qui se fait partout, et ce qui se fait déjà dans pas mal de quartiers de la ville, je pense à Lille-Centre ou à Euralille, parce qu'au fond ça ressemblerait à un Euralille 3. Si les gens d'Arras connaissent le Euralille 1 et l'Euralille 2, qu'ils sachent que la métropole pense à un troisième exemplaire. Donc ça a commencé comme ça, et donc la question bien sûr ça a été comment rendre visible ce site, qu'il l'est déjà visible, puisqu'on peut le voir du métro, puisque la rue de Cambrai le borde. La question est devenue aussi pour nous, mais comment se fait-il qu'on ait attendu si longtemps pour prendre conscience des potentialités de ce si vaste terrain ? On s'est dit aussi, mais d'autres en parleront, on s'est dit aussi que toute la politique culturelle qui avait été mise en place par l'île 3000 sur le site qu'on appelle la gare Saint-Saul, avait contribué à masquer tout le projet d'aménagement qui avait lieu, qui était prévu juste de l'autre côté du mur d'enceinte de la gare Saint-Saul.
En fait, pour ce qui s'est passé sur le terrain, une des plus récentes et qui a été marquante, ça a été l'installation du gourbi, c'est-à-dire qu'on est allé sur le terrain, on a construit une cabane, et l'intention au départ, c'était de faire en sorte que les Lillois et les riverains prennent conscience que le lieu existe, et l'idée c'était de créer un usage sur le lieu. Puisque comme dans la représentation spéciale de la ville, cet endroit n'existait pas, c'était une façon de le marquer, de le rendre palpable et de faire en sorte qu'il y ait du passage et donc un usage, parce qu'il est plus difficile de retirer aux gens un lieu dont ils ont l'usage qu'un lieu qui n'existe pas en fait, dans leur pratique quotidienne.
Il y a eu un élément déclencheur, en fait, c'est que la municipalité a mandaté une entreprise pour installer des glissières en béton armé tout autour du site et qui devaient être accompagnées de palissades, ce qui allait complètement priver l'accès au belvédère, qui déjà est complètement méconnu, et en plus qui, comme la friche, se serait retrouvée en partie invisibilisée, même si elle est visible depuis le métro. Mine de rien, personne ne se rend compte de ce qu'elle représente. Enfin, face à la manœuvre qu'a essayé de mettre en place la mairie, il y a eu opposition, on a démonté les palissades, on est allé devant la mairie pour les questionner là-dessus, parce qu'en gros, c'était une tentative aussi pour eux de nous couper l'herbe sous le pied et de dire, bah voilà, le projet, c'est bon, il va être construit et il n'y a plus rien à faire, en fait. Or, c'est pas le cas. Et donc du coup, aujourd'hui, il y a encore les glissières en béton armé, mais qu'on peut très facilement enjamber. Et voilà, et donc en fait, ça a été le départ de l'occupation et de la déclaration de zone à protéger, donc ZAP, du belvédère.
Alors ça en est où la situation, j'allais dire juridique, parce qu'il y a eu aussi des victoires de votre collectif sur ce terrain-là, avec d'autres associations aussi?
Donc deux associations, l'association pour la suppression des pollutions industrielles, l'ASPI, et puis l'association PARC, protection, aménagement et réappropriation collective du site Saint-Sauveur et son belvédère. Donc ces deux associations ont déposé maintenant, à l'heure où nous parlons, trois recours. En fait, le premier a suffi, puisque le juge, et ça nous a tous surpris, pour un projet aussi considérable. Oui, enfin, la justice a dit non, cela ne se fera pas. En tout cas, il faut voir. Bref, le juge a pris la décision de geler, de suspendre le projet. Et donc ça a été une décision en urgence, en référé. Et le jugement n'a pas été porté au fond jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'un délai très long, court, depuis le 5 octobre 2018... ça fait plus d'un an maintenant, et ce qui fait qu'on est, on peut être tout à fait confiant que rien ne se fera avant les élections municipales, et peut-être que là, les cartes seront rebattues.
Suite de notre entretien avec plusieurs membres du collectif Faites la Friche, collectif investi dans la protection de la Friche Saint-Sauveur et du Belvédère au centre de l'île.
Ce que vous contestez finalement, c'est aussi un modèle de développement, la densification urbaine. Est-ce que, mais en même temps, je ne vais pas me mettre dans la position des opposants ou de la ville, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est proposé, une alternative, ou est-ce que, comme ça a été dit un petit peu dans la réunion, vous souhaitez que ça reste ouvert, un lieu d'expérimentation sociale culturel, écologique?
Il y a proposition, mais il n'y a pas proposition d'une forme, il y a proposition d'un processus et d'un cadre d'action. Donc c'est un peu compliqué parce que aujourd'hui c'est pas quelque chose auquel on est habitué, donc c'est peut-être difficile à entendre, mais l'idée c'est de pas adopter la position justement des acteurs qu'on critique, et de pas décider nous dans notre petit collectif avec nos idées et nos convictions qu'il faudrait donner une direction ou une forme à la friche, mais justement essayer de créer un cadre qui permettrait à un plus grand nombre de personnes de s'investir dans la construction de ce projet et justement d'élaborer une réelle alternative à la manière dont la ville est construite aujourd'hui, par exemple.
Oui, je voudrais faire un rectificatif. Notre collectif n'est pas un petit collectif. Je sais bien. Non, mais je comprends très bien et je souscris complètement. Juste rappeler que, en fait, on ne peut pas décider aujourd'hui, là, soudainement, en quelques années de réflexion, quels usages seraient les meilleurs pour ce vaste terrain. Tout simplement parce que pendant plus de 150 ans, les habitants sur le pourtour n'ont pas eu d'usage de ce terrain. On pourrait même aller plus loin, ça fait 3 siècles et demi, en fait, il y a un rempart, il y a une sorte de sas entre le quartier centre et le quartier Moulin. Parce qu'avant la gare de marchandises, pendant 1 siècle et demi, ces activités, il y a eu les remparts de la ville de Lille qui scindaient la ville en deux, en fait. Donc c'est vraiment une question très sensible, l'aménagement de cette parcelle, de cette vaste parcelle. Et dire aussi qu'il y a une agence d'architectes qui avait bien compris la question quand la ville et la Melle ont lancé leur appel à projet. C'est donc l'agence de Paul Chemetoff. Qui a eu la sagesse de dire « D'accord, c'est votre commande, 2500 logements, 55 000 m² de bureaux, etc. Bon, c'est votre commande, mais nous, on ne sait pas ce qu'il faut construire sur ce site. On ne sait même pas s'il faut construire. Donc ce qu'on vous rend, c'est une page blanche avec juste un petit truc là qu'on va appeler cantine ou petit lieu culturel pour que les gens développent des usages et expriment le besoin d'autre chose. » Ce qui est en fait un peu notre position.
Justement, puisqu'il a été question des habitants du quartier ou des quartiers de Moulins, parce que c'est vraiment collé pour les Arajois qui nous écoutent, Saint-Sauveur et les quartiers de l'île Moulins. Comment ça se fait que finalement on retrouve assez peu de gens de ce quartier dans votre collectif? On pourrait se dire, là il y a la place pour faire quelque chose pour nous, pour les gens de Moulins. Des espaces naturels, des espaces verts qui manquent cruellement aussi dans ce quartier. Comment ça se fait que c'est un peu difficile quand même finalement cette appropriation par les habitants qui sont juste à côté quoi. C'est à cause de justement cette frontière un peu mentale dont vous parliez.
D'abord, on parlait à l'occasion de cette discussion, n'est-ce pas, au Polder tout à l'heure, on parlait du fait que ce terrain aujourd'hui accueille des gens qui sont rejetés ailleurs. Donc consommateurs, consommatrices de drogue, migrants expulsés et d'autres encore. Il se trouve que les habitants du quartier Moulin ont à vivre cette cohabitation avec cette population, je ne sais pas comment dire. Et donc, lorsque sur la friche ou sur le belvédère, ils aperçoivent des gens qu'ils ont eu tendance peut-être à tenir à distance, pour ne pas dire les rejeter, ce n'est pas pour eux une invitation à nous rejoindre sur le belvédère ou sur la friche. Première chose, ça c'est pour l'occupation, le venir physique sur le terrain. Par ailleurs, vraiment une autre entrée dans la question, c'est que finalement on en est toutes et tous un peu restés à cette idée qu'il y a des spécialistes qui s'appellent des urbanistes et c'est eux qui sont en charge de ce genre de dossier. Et c'est ça aussi qui pourrait expliquer que pendant 15 ans on n'est pas bougé. On s'est dit, il y a nécessairement des gens pour s'occuper de ça. Et on ne se sent pas concerné parce qu'on ne se sent pas le droit d'avoir voix au chapitre et on n'a pas les connaissances qu'il faut. Sauf que sur le terrain, peu à peu, on se forme et surtout, on voit la limite des compétences des gens qu'on a en face. Ça aussi, ça redonne du courage.
Pour ma part, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une question qui nous est souvent renvoyée, la question de quelle est l'implication des locaux, des habitants du quartier sur la friche. Il y a eu des consultations publiques, on n'a pas été invité non plus à venir, qui était organisé par les élus locaux, où il nous a été renvoyé que, c'est une problématique de quartier, c'est les gens du quartier qui ont à prendre la décision sur ce qu'on va faire sur la transformation de leur quartier. Oui, mais aussi ce qu'on peut opposer à ça, c'est le fait que les enjeux qui se cristallisent en fait sur la sur l'aménagement de la gare Saint-Sauveur, enfin de la friche Saint-Sauveur, finalement ne concernent pas que les gens du quartier, parce que c'est une politique urbaine qui est liée à la métropolisation et qui a un impact aussi finalement en périphérie. C'est-à-dire la densification urbaine crée des phénomènes qui ont un impact aussi en fait dans les milieux ruraux, dans le milieu rural de toute la région Nord-Pas-de-Calais, notamment sur des phénomènes d'aspiration d'emplois qualifiés qui vont être siphonnés sur les pourtours. On s'est rendu compte que c'était lié aussi aux enjeux, en tout cas les questions qui étaient liées aux taxations carbone et qui ont un rapport en fait avec les mobilisations sociales des gilets jaunes. Et au-delà de l'aspect de la conservation d'un lieu en plein cœur de la ville de Lille, ça questionne aussi toute une vision de développement économique. Et donc on ne peut pas réduire ça à une question locale et simplement un aménagement de quartier qui ne concernerait en fait que les habitants du quartier. Donc il y a des habitants du quartier, mais pas que aussi. Il y a d'autres gens. Et on voit bien que sur le terrain, en tout cas pour ce qui me concerne, quand j'ai rejoint la mobilisation, je me suis très vite aperçu que c'était aussi le lieu de nombreuses questions, de nombreuses interrogations qui dépassaient largement les problématiques de quartier.
Dernière question, parce que le café ferme. Vous disiez lors de la réunion publique ici au café au Polder que vous invitiez en fait les gens à venir sur la friche pour qu'ils se fassent leur propre idée et puis aussi leur propre rêve, parce qu'on peut avoir des rêves comme ça quand on voit les choses de l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, on le vit un petit peu différemment. Alors j'aimerais que vous nous parliez un petit peu, chacune, de votre rapport finalement à cette friche et puis à cette expérience de lutte sociale comme ça autour de la friche.
Quel est mon désir. Tu as entendu ce que je disais sans doute tout à l'heure. En effet, on arrive tous avec des attentes, des désirs, des besoins. Et puis tout d'un coup, on entre sur ce grand espace, on est en pleine ville. Tout d'un coup, on voit la ville, puisqu'il y a cet horizon dégagé. Et on se dit, j'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Et si je sais quoi, peut-être que je ne sais pas le faire. Et personnellement, l'expérience que j'ai faite sur cette friche, c'est de rencontrer 9 fois sur 10 la personne à côté de moi qui savait faire ce que moi je ne savais pas faire et qui m'aiderait peut-être à réaliser tel ou tel projet. Je me suis réjoui en fait au départ, moi j'avais l'idée de choses théâtrales et tout ça que j'ai laissé tomber, et en fait j'ai vu d'autres personnes les réaliser et construire l'équipement qu'il fallait, enfin bref, j'espère que ça illustre ce que je voulais dire.
Un peu dans la même veine, hein. Mais c'était marrant parce que j'ai découvert le lieu avant qu'il ne soit occupé comme on l'a fait. Et enfin, il était occupé par les personnes qui étaient déjà là, quoi, ponctuellement. Moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment à la fois que cette identité du lieu avec laquelle je commençais à me familiariser, qui était extrêmement touchante, parce que justement, c'est un espace de poésie et de liberté qui est et qui a l'air super marginal alors qu'il est en plein cœur de ville. Et donc il y a un décalage d'atmosphère qui est assez frappant et à laquelle s'est ajoutée toute la richesse de la rencontre, du collectif. Et voilà, c'est que du bonheur.
Alors que dire je sais pas. Oui, alors Modeste Richard, artiste plasticien. plus sérieusement, et ça a du sens le fait que je rappelle en fait ma profession. C'est que avant tout moi ce qui me motive, c'est que là on a affaire à un espace sur lequel le plus grand nombre a la possibilité de donner forme à son imaginaire et à sa poésie, et que c'est pas l'affaire de quelques professionnels que je représenterai. Et donc du coup, effectivement, il y a une richesse de rencontres, il y a une richesse d'imaginaire, il y a une richesse d'échange de savoir qui m'excite en fait sur ce lieu, et c'est la raison de ma présence, voilà.
Je ne suis pas très à l'aise avec les prises de parole, surtout quand elles sont enregistrées, mais donc du coup je renvoie plus à le carnet que j'ai fait sur cette lutte, qui s'appelle Zap, tout simplement. Donc mon pseudo d'artiste, c'est Lorraine Lesbains, et c'est un retour personnel sur comment j'ai vécu, mon implication et les rencontres que j'y ai faites, qu'elles soient spatiales ou humaines, on va dire. Végétal ou etc. Depuis février en fait, depuis le début justement de la ZAP tout court, de l'implication sur le Belvédère avec la construction du Gourbi. Il est disponible sur mon site, donc c'est marthe.com, Marthe avec 3 A comme le prénom, voilà, au nom de ZAP.
C'est une bonne façon de voir ce qu'est le lieu, d'avoir une image du lieu, et puis voilà, c'est un point de vue qui donne une entrée. C'est une façon de découvrir ce qu'est notre lutte. Moi, je vous invite à aller le commander. Voilà.
On était en compagnie de Modeste Richard, Lorraine, Marion et Camille du collectif Faites la Friche. Un entretien réalisé le 4 novembre dernier au Café culturel Le Polder à LM. C'était à l'occasion du vernissage de cette exposition « Regards sur la Friche Saint-Sauveur ».